Décryptage, une émission de Cato Bell, Armelle Delmel.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui avec moi en studio, Suzanne Bécard, doctorante en théologie, si je ne me trompe pas, et Pierre Gagné, secrétaire de rédaction du journal Dimanche. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Suzanne, bonjour Armelle, bonjour à tous.
Alors, je vous propose de passer de suite au sommaire de cette émission. En première partie, nous parlerons sport, le sport et les jeunes, les JO et tout ce qui tourne autour. En tout cas, on va essayer de faire un petit tour de piste du sujet. Et en seconde partie, nous nous promènerons sur les réseaux sociaux, plutôt nous scrollerons sur les réseaux sociaux à la recherche des hashtags et nous parlerons de leur influence, bonne ou mauvaise. Enfin, nous finirons avec vos zooms respectifs et la présentation du journal Dimanche que vous nous ferez, Pierre. Alors, dites-nous en deux mots de quoi vont parler vos zooms ?
De Jérusalem.
Ok.
Et moi d'un accord un peu honteux.
Donc Jérusalem et un accord honteux. Ok.
Ça bon. Va
Alors, le sport. Donc, avant de lancer dans le sport, je vais peut-être préciser à nos auditeurs que s'ils entendent des tremblements et des gros bruits, c'est parce qu'il y a des travaux juste à côté. Et voilà.
Des bruits de marteau piqueur.
C'est entre guillemets normal. Non, le studio.
On donne la mèche tout de suite comme ça.
Le studio ne nous tombe pas dessus. Alors, le sport, je disais donc, tous les jours, on peut entendre parler d'une compétition, d'un match ou d'une course, que l'on soit amateur professionnel ou sportif du dimanche. On a tous dû, à un moment donné, enfiler nos baskets, au moins pour le cours de gym à l'école. Le sujet tombe évidemment à pic pour parler des JO de Paris, qui commenceront dans moins de 100 jours maintenant, puisque la flamme a entamé sa route. Alors déjà, vous, est-ce que vous vous considérez comme des sportifs ? On va commencer par ça.
Sportif du dimanche, plutôt.
Oui, moi aussi. Je suis pas un sportif, je suis un fan de sport, mais je ne suis pas un grand sportif. Mais
Suivez le sport plus
je
que vous n'en
sport
faites.
Et j'essaie d'en faire un peu aussi, du tennis, un peu de vélo. Voilà.
C'est déjà ça.
M'entretenir. Hein.
Alors, le sport à l'école, on va commencer par ça, on va faire par progressivement. En général, c'est 3 ou 4 heures qui sont obligatoires, en tout cas en secondaire. En tout cas, mon époque, Pierre, vous avez les retenus.
Je ne sais pas, pas plutôt 3 heures.
Mais dans ma mémoire, c'était 3 ou 4. Mm-hmm. Ça dépend peut-être des écoles. Est-ce que c'est assez pour assurer que les jeunes aient déjà une activité suffisante dans leur journée? Ou justement, est-ce que c'est peut-être trop et que ça risquerait d'en dégoûter certains?
Trop, sûrement pas, à mon avis. Assez, je sais pas, mais la difficulté c'est de faire tenir tout un programme dans une scolarité avec toutes les autres matières. Donc si on met plus de sport, c'est au détriment d'autres matières, donc c'est un arbitrage qui n'est pas évident à faire, ou alors à reconsidérer totalement la journée scolaire. Moi je pense que le sport a beaucoup de vertus et il faut pas négliger la matière. Souvent on brosse le sport quand on est jeune parce que on est en retard, on préfère réviser ses maths ou quelque chose, enfin je veux dire, c'est du vécu, tout le monde a vécu ça.
Il y en a qui donc préfèrent réviser leurs maths que d'aller faire du sport.
Ouais, c'est un peu la matière
ça dépend
qui fait les frais de ça. Et mais globalement, outre l'école, c'est, je pense que les adolescents, les jeunes font pas assez de sport à côté. On a un mode de vie est de plus en plus sédentaire. Donc, il y a quand même un danger d'un point de vue de la santé en général.
Je pense que c'est une matière qui a mauvaise presse, en fait. Hein. Enfin, c'est aussi une question d'avoir la volonté de se changer, d'aller prendre une douche, d'aller dans les vestiaires. Il y a beaucoup d'éléments, facteurs qui sont un peu autres aussi. Mais je pense que ouais, c'est une matière qui a un peu mauvaise presse et qui mériterait d'être peut-être un peu plus valorisée en tout cas.
Alors, c'est une matière qui a mauvaise presse, mais en même temps, j'en profite, je donne ma petite anecdote. Dans l'école où moi j'étais, il y en a qui avaient cours, qui avaient option sport et qui du coup avaient 10 heures de sport par semaine. C'était la plus grosse option de mon année. Donc,
wow. Il
y en a quand même qui aiment.
Bien sûr, il y en a qui aiment. Et heureusement, parce que ça leur permet vraiment de pouvoir... la plupart du temps, il y a beaucoup de sports quand même qui se font en extérieur. Donc, de pouvoir respirer l'air frais, si on peut dire. Et ne pas rester sédentaire et statique sur une chaise pendant des heures. Moi, je pense que c'est très difficile aussi pour les enfants. Je pense aux jeunes enfants en bas âge, mais de rester concentré des journées entières sur une chaise. Moi, je comprends qu'ils soient parfois un peu hyperactifs et qu'ils manquent d'attention et de concentration. On pourrait aussi peut-être imaginer des cours un peu plus sportifs, actifs, dans la façon d'organiser le cours plutôt que derrière une table et une chaise.
Peut-être oui. Avoir une heure de sport par jour le matin ou là, début d'après-midi pour faire bouger les jeunes.
Alors, je ne sais pas si ça doit être organisé de manière formelle et dans le cadre de l'école, mais ce qui est clair, c'est que l'OMS, hein, l'Organisation Mondiale de la Santé, c'était vraiment de montrer qu'on ne faisait pas assez de sport et qu'une heure, c'était ce qui était préconisé par jour. Mais effectivement, on peut dire que c'est une heure, dans cette heure-là, on peut intégrer le fait d'aller à l'école à pied ou à vélo, de s'octroyer après, je sais pas, une demi-heure, ou prendre par exemple les escaliers plutôt que l'ascenseur si on vit dans un immeuble. Mm-hmm. Donc il y a un tas de moyens, je dirais, de faire du sport sans, en gros, sans faire une démarche dans un club, dans le cadre d'un club ou d'une salle de sport. Donc c'est un peu cet état d'esprit qu'il faudrait essayer d'inculquer aux jeunes. Et souvent, ça passe souvent par les parents qui doivent aussi un peu montrer l'exemple. Mais la notion d'activité tout au long de la journée, oui, elle est vraiment cruciale. D'autant qu'on, voilà, en ce moment, avec on va en parler tout à l'heure, mais avec les smartphones, on a vraiment plutôt l'esprit occupé par nos écrans. Et du coup, on reste plutôt dans sa chaise ou son canapé ou sur son lit.
Au niveau des initiatives, je sais que en France, il y a une initiative juste après la décision que les JO allaient être à Paris, d'avoir 30 minutes de sport chaque jour dans les écoles, dans les écoles primaires, et ensuite une autre mesure aussi d'Emmanuel Macron, c'était 2 heures de plus dans la semaine pour chaque collégien de sport. Donc c'est déjà des initiatives qui ont été mises en place et qui font leurs preuves, je pense. Moi, dans mon expérience personnelle, j'ai fait de l'anglais renforcé, comme on appelait ça, une option anglais plus. Et on avait le choix de prendre des cours en anglais, donc soit justement mathématiques ou sport en anglais. Et j'ai eu des cours de sport en anglais et j'ai vraiment adoré cette matière. Ça me laisse un souvenir mémorable. Alors, c'était soit des discussions sur le dopage, etc. en anglais, ou vraiment, j'ai eu un cours de rugby en anglais, quoi.
Sympa.
Oui, c'est vrai que le sport, peut-être qu'on n'y pense pas assez, mais ça peut développer en fait la partie vraiment éducative. On va dire il y a l'instruction, l'acquisition des matières comme le français, les mathématiques, les sciences, l'histoire, tout ça. Mais à côté, le sport peut-être travailler aussi sur deux tableaux, c'est-à-dire à la fois l'activité physique, mais aussi l'aspect éducatif, parce qu'il y a quand même plein de valeurs qui sont intéressantes d'exploiter. Avec le sport, qui sont évidemment, dans le cadre des sports collectifs, l'esprit d'équipe, la solidarité, l'entraide, il y a le goût du dépassement de soi, le goût de l'effort aussi, la rigueur, le respect des règles, puisque dans les sports d'équipe, dans les sports en général,
il y a des règles à respecter.
Vous devez respecter les règles et vous devez respecter l'arbitre. Ça, c'est aussi très important quand on voit en ce moment, en football notamment, comment les arbitres sont malmenés par les joueurs. On peut se dire que voilà, si on faisait un travail à la fois d'éducation autour du sport, c'est quand même après des valeurs qui peuvent s'illustrer dans tous les aspects de la vie professionnelle et citoyenne, familiale.
Alors, je continue dans le parcours de nos jeunes qui font du sport. Ils ont été en primaire, en secondaire, et puis ils vont, pour la plupart, maintenant en supérieur. Et alors, je ne sais pas si c'est comme ça en France, vous me direz, mais chez nous, certains élèves ont leur parcours d'études qui est adapté parce qu'ils sont sportifs à plus ou moins haut niveau. Donc, ils peuvent passer des examens à d'autres moments, rater des cours sans avoir trop de problèmes. Est-ce qu'on devrait continuer comme ça à adapter leur parcours d'études, ou est-ce qu'on devrait plutôt s'assurer à ce qu'ils aient un solide plan B s'ils devaient finalement ne pas avoir une grande carrière ou s'ils venaient à se blesser?
La carrière sportive de haut niveau, elle est en général très courte. Hein, quand on regarde les footballeurs, etc., elle est en général très courte. Donc je pense que c'est une chance pour certains jeunes qui ne sont... je pense qu'on n'est pas tous très intellectuels et tous très bottés par l'école. Donc s'ils sont plus intéressés par le sport, s'ils sont bien accompagnés, moi, j'étais assez impressionnée de la gestion, en tout cas à Lucie Louvain, justement, de ce statut que tu disais d'études et sports de haut niveau. Il y a vraiment un suivi, un accompagnement sportif et médical, une aide au déplacement, aux frais de déplacement, et aussi une justification lors des absences, des concours, etc. Mais je trouve que le statut est vraiment bien géré et bien organisé. Donc je trouve que ça mérite vraiment d'être souligné, qu'on peut faire du sport de haut niveau et avoir encore des études à côté.
Oui, d'autant qu'on dit que les élèves qui sont bons en sport ont aussi de très bons résultats scolaires à côté. Donc l'un n'empêche pas du tout l'autre. C'est peut-être une vue d'esprit de penser qu'à un moment donné, ben, il faut faire du sport à fond parce que voilà,
c'est le
moment et on est jeune et donc si on veut une carrière, évidemment, il faut la faire vite. Donc peut-être au football, il y a un peu cet état d'esprit. Dans les clubs de formation, peut-être qu'il y a quand même un aspect école quand même maintenu, mais avec peut-être un peu moins d'ambition au niveau du diplôme. Or, je pense que là, finalement, le fait de pouvoir continuer dans l'enseignement supérieur, je pense que ça peut apporter un certain équilibre. Et donc, effectivement, les universités sont quand même assez bien placées pour pouvoir aménager des rythmes et voilà, et puis envisager, je sais pas, une licence ou un master sur plusieurs années, peut-être 2 années de plus par rapport à un étudiant normal. Mais le fait de pouvoir continuer une activité, alors, on va dire, intellectuelle à côté, c'est sûrement profitable pour le sportif. Et je pense que quand on interroge justement ces sportifs qui en bénéficient, ils leur disent, mais ça fait partie de mon équilibre et je ne suis pas au moins à penser à 100% sport. Parce que parfois, vous pouvez avoir des petites périodes d'un peu de doute, une blessure qui peut mettre un coup d'arrêt dans la progression. Donc là, du coup, on va reporter ses efforts sur l'aspect des études. Donc c'est vraiment une très bonne chose.
Alors ces jeunes qui font du sport intensif, ils repoussent leurs limites, les limites de leur corps. Ils sont en pleine croissance. Notre corps grandit jusqu'à quoi, 21 ans, si je ne me trompe pas. Donc ils sont en supérieur, ils font leur sport intensif, leur corps prend des coups de temps en temps quand même. Est-ce que c'est pas le risque d'augmenter les problèmes de santé plus tard pour eux?
C'est sûr, moi j'ai entendu parler d'une gynécologue qui faisait justement de la prévention sur tout ça, parce qu'il y a aussi toute une question de nutrition aussi derrière le sport. Et en fait, cette médecin du coup disait qu'il y avait une répercussion directe sur la fertilité de ces personnes qui prenaient par exemple ce genre de nutriments et ces boosts d'énergie. Avaient vraiment des impacts directs sur la fertilité, sur la qualité justement des semences, etc. Donc c'est sûr, c'est un impact direct sur la santé, sur la fertilité, sur tellement de choses, sur l'esprit aussi.
C'est super important d'être très très bien encadré à ce niveau-là. Mais je pense que quand on est dans du très haut niveau, je pense qu'il y a des gens, et puis on a de plus en plus de connaissances scientifiques sur ça, mais c'est vrai qu'à un moment donné, au moment de la croissance, on peut être tenté d'être dans l'excès et effectivement causer des ravages irréversibles sur des aspects physiques d'une personne, ça c'est clair. Mais je pense qu'on s'améliore un petit peu de ce côté-là. Et il y a peut-être aussi une volonté, alors je ne sais pas, de la part des fédérations, de peut-être pas trop pousser des jeunes qui sont en pleine croissance par rapport à leur potentiel sportif et de dire, chaque chose en son temps, pour l'instant... Il est en pleine période de développement, donc il y aura évidemment de la compétition pour qui reste, je dirais, au contact, mais sans pousser, sans vouloir en faire trop. J'ai vu récemment un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est La méthode Williams, donc qui raconte l'histoire du père des sœurs Serena et Venus Williams, donc deux célèbres joueuses de tennis américaines. C'est de ce côté-là, alors évidemment, c'est Disney qui l'a produit, mais
c'est Disney
évidemment
chier un petit peu.
Plein de bons sentiments et plein de bonnes choses. Mais en fait, on avait cet aspect-là où il défendait la possibilité pour ses filles de continuer leurs études, même si ça c'est pas vraiment fait comme ça au final. Mais on voyait cette volonté de ne pas forcer les choses par rapport au rythme de gérer de l'enfance, ne pas qu'elles puissent encore s'amuser comme des enfants. Donc ça c'est l'équilibre, c'est pas toujours à trouver effectivement quand on décèle un grand potentiel chez un enfant. Ça arrive, c'est vraiment, je crois, la seule matière où justement on pousse beaucoup. Je veux dire, si vous aviez un enfant particulièrement doué pour le dessin, la menuiserie, ou je sais pas, je crois que voilà, on ferait beaucoup plus. On s'en préoccuperait moins que quand il y a des capacités sportives comme ça qui sont au-delà de la moyenne.
J'ai l'impression, mais c'est peut-être qu'une impression, qu'il y a un besoin de toujours faire mieux de toujours se pousser plus loin, comme je le disais, et ça pousse certaines personnes à se doper. Ici aussi, on peut se poser la question de ce que utiliser des dopages, des manières de se doper, peut avoir sur le corps. Il n'y a pas que des médicaments et des drogues, hein. Il y a aussi des cyclistes qui ont mis des moteurs dans leur vélo, des choses comme ça.
C'est ce qu'on appelle, oui, le dopage mécanique.
Voilà. Mais donc c'est aussi
moins grave pour la santé, là.
c'est beaucoup moins grave pour la santé. Mais donc, on peut aussi se poser de nouveau la question de vouloir toujours repousser les limites du corps humain avec le dopage.
On voit ça dans les salles de sport aussi, ou alors ils ont des régimes protéinés, enfin hyperprotéinés, je ne connais pas grand-chose, mais on voit qu'ils achètent des grands
sachets,
conserves de sachets, et qu'ils ne mangent plus vraiment naturellement, mais à coup de poudre et dilué dans de l'eau. Et là, parfois, il y a un excès parce que voilà, les gens ils sont très mal encadrés, ils vont se renseigner plutôt sur Internet qu'avec un vrai professionnel. Donc là, il peut y avoir aussi des soucis dans le dosage, j'imagine, de ces poudres magiques pour pouvoir prendre beaucoup de muscles et peu de graisse. Alors, je ne sais pas si on peut considérer ça comme du sport, mais c'est en tout cas un effet pervers du développement des salles de gym, de la popularisation de ces lieux. Et on peut mettre en garde, oui, il y a sûrement un danger. Oui. Après, sur le dopage en tant que tel, ça existe malheureusement même au niveau amateur, donc où là, il n'y a pas vraiment d'enjeu financier derrière. On peut toujours dire que quand on a une course où on donne 1 million d'euros aux gagnants, ben on est moins regardant sur les méthodes, mais on voit ça dans le milieu amateur et avec des jeunes. Forcément, le sport ça implique toujours des compétitions, plutôt des publics très jeunes. Et là, il y a de quoi vraiment, vraiment être inquiet.
Je pense qu'il y a du travail dans la prévention et dans l'éthique aussi qui est derrière tout ça. C'est super important. Après, je pense aussi au fait que tous les excès, notamment les excès d'alcool et de cigarettes, etc., n'est pas possible du tout dans le sport. Donc, il faut bien trouver un excès quelque part. Et ben voilà, on a notre lot d'excès.
Est-ce qu'on est obligé d'avoir des excès? Ils ont déjà des excès dans leur entraînement parfois.
C'est oui. vrai.
Oui, l'excès. Alors l'excès, non, évidemment, l'excès est nuisible en tout. C'est plutôt là, voilà, c'est là où est la frontière entre le dépassement de soi et puis là où on a vraiment franchi et on est dans l'excès parce que justement on a pris sans doute des produits et que le corps ne peut plus déclencher de signaux avant la fatalité d'une certaine manière. Mais on parlait d'éthique. C'est intéressant parce qu'effectivement, quand on disait que le sport pouvait peut-être amener des valeurs en même temps, parler de discuter en matière de valeurs éducatives, ben, l'éthique, ça en fait partie. Et peut-être qu'il faut reconsidérer alors, le sport sous un angle beaucoup plus ludique, sous un angle plus d'entraide, de solidarité, que sur le plan de la performance, où on va dire, ben, il faut qu'on gagne absolument, il faut que j'améliore absolument mon temps, que je descende d'une seconde, par exemple, sur ma performance, mais plus favoriser une découverte de son corps, de ses limites, de soi, admettre les échecs aussi, parce que ça, la vie d'un sportif, on l'oublie, mais c'est surtout fait d'échecs et très peu de victoires au final. Tout cet aspect éthique effectivement est important et ça pourrait vraiment bien passer dans le cadre de l'enseignement de ce qu'on appelle les cours d'éducation physique.
Est-ce qu'on devrait donner une seconde chance aux athlètes qui ont utilisé une forme de dopage, qu'elle soit médicale ou mécanique, s'ils peuvent prouver qu'ils sont clean, que leur vélo n'a pas de moteur, ce genre de choses? Est-ce qu'ils peuvent avoir une seconde chance?
Si, effectivement, on peut. Ça, c'est un peu le principe de la justice. S'ils ont été accusés à tort, on va pas. Il n'y a aucune raison de leur contester. S'ils ont été pris, par contre, qui ont reconnu le dopage, c'est toujours. On ne sait pas quelle est la sanction la plus, dissuasive à appliquer. Est-ce que le fait de dire, à partir du moment où vous êtes pris la main dans le sac, c'est le retrait d'une licence et puis c'est plus la peine de revenir, c'est définitif. Là, j'avoue, je n'ai pas vraiment de réponse à apporter. Je ne sais pas si Suzanne...
Je trouve que c'est très brutal. Mais bon, on peut croire aussi au repentir. Hein,
oui, la rédemption, bien sûr. Ça, c'est un thème qu'on connaît bien. Je ne sais pas. Oui. Je dirais de ce point de vue, le dopage mécanique est un peu moins grave. Il n'y a pas, pour l'intégrité physique de la personne, il n'y a pas de danger. C'est simplement
pour le fair-play, par contre.
Sur le fair-play, voilà. Par contre, on peut beaucoup, on aura beaucoup à redire. Je pense qu'après, le peloton, dans un cas de course cycliste, le peloton se chargera de vous remettre un petit peu en place par rapport à ça.
Moi, ça me fait penser aussi au permis à points. Quand on perd des points, on les récupère, on fait des stages. Bon, bah, peut-être qu'il peut y avoir un stage de prévention sur le dopage ou sur l'éthique du sport pour essayer de regagner la confiance.
Oui, comme des travaux d'intérêt généraux dans les clubs, aller témoigner. Voilà, je me suis dopé, c'est pas bien, faites surtout pas ça.
J'ai perdu mon titre.
À cause de ça, j'ai perdu mon titre. Mais vous voyez, par exemple, Lance Armstrong qui a été destitué de tous ses titres. Hein, donc, il a gagné, je crois, 7 fois le Tour de France, on est arrivé à établir donc il avait triché, donc il a été destitué de tous ses titres. Bon, sa carrière est derrière lui, je suis pas sûr qu'il en.
Il n'a plus grand chose à faire.
Non, je veux dire, il s'est enrichi, et voilà.
Il faudrait peut-être lui demander de rembourser tous les prix qu'il a gagnés.
Voilà, mais c'est difficile après d'évaluer, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles d'évaluer. Donc.
Alors avant de clôturer ce sujet, je propose qu'on reprenne nos jeunes, like, dopés ou non, ils arrivent au JO, parce que c'est quand même dans pas si longtemps que ça. Au JO, on a tendance à comparer les résultats qui sont déjà des résultats exceptionnels. Je pense que personne dans ce studio est capable de faire la même chose qu'eux. Aux records qui sont déjà établis, peu importe s'ils datent d'il y a 10 minutes ou 10 ans, est-ce qu'on ne devrait pas simplement dire cette personne a fait une performance, cette performance est très bien, plutôt que de comparer avec un record qui est difficilement égalable, voire dépassable.
Bah, c'est, comment dire, l'intérêt, c'est qu'il y a une objectivité dans un chiffre. Donc, effectivement,
voir. Est-ce que comparer n'importe quel coureur à Usain Bolt est vraiment objectif?
Non, mais ce qui est intéressant, c'est effectivement de comparer des grands comment dire, compétiteurs entre différentes époques où il n'y avait pas le même matériel, il n'y avait pas... donc c'est Jesse Owens, par exemple, qui a gagné 4 médailles d'or, je crois, mais c'était aux Jeux Olympiques de Berlin. Alors, en dehors du contexte politique, ça a été quand même une chose extraordinaire. Et le temps, bon, forcément, comparé aux performances de Usain Bolt maintenant... On s'est dit, s'il devait courir aujourd'hui, il serait, je sais pas, derrière les 100 meilleurs, quoi. Mais bon, c'est difficile de comparer puisqu'on a vraiment des progrès techniques qui ont apporté beaucoup dans tous les domaines, hein, que ce soit la nage, que ce soit l'athlétisme, ou même sur des trucs basiques, hein, où on se dit, il faut juste courir le plus vite. Non, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'efforts qui sont menés sur le matériel. Ça semble difficile de ne pas vouloir quand même mettre en perspective un temps, une performance, un nombre de points.
Ouais, c'est vrai que le sport, il est quand même très compétitif et il y a ce côté de même joie dans un autre, pas les JO, mais dans une autre échelle. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez l'application de sport Strava.
Oui,
c'est comme devenu un nouveau réseau social de publication de ses performances, etc. Ouais. Et donc toujours avoir des nouveaux objectifs et voir quel temps font les autres, etc. Et moi, j'avoue que je suis vraiment tellement pas compétitive et c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse dans le sport. Je suis vraiment ça pour le plaisir, que j'ai vraiment du mal. Maintenant, dans les JO, ce que j'aime bien, c'est plus tout le folklore qu'il y a autour et donc la création d'idoles, en fait, de grands sportifs. On a tous là des idées de sportifs ou de sportifs connus et célèbres qui font rêver les jeunes, etc. Moi, je trouve que ça, c'est plus quelque chose qui me botte et que je trouve assez intéressant, tout ce truc autour du sport, des grands sportifs.
Mais voilà. On constate d'ailleurs que souvent, dans la parole des sportifs ou des entraîneurs, il y a la notion de plaisir aussi, hein, où on dit, écoute, d'abord, oublie un peu l'enjeu et essaie de prendre du plaisir dans ce que tu fais, que ce soit du tennis, que ce soit le saut à la perche. Donc il y a peut-être aussi ce facteur-là où on essaie de mettre les choses de côté sur le plan des performances, et de ne faire ressortir que la notion de plaisir, d'aller chercher finalement le geste parfait, parce que c'est celui-là finalement qui va peut-être vous donner le plus de satisfaction que le fait d'avoir franchi la barre à 6 mètres. Donc après, évidemment, tout le monde va admirer, mais peut-être qu'au départ, le sportif, lui, il va tout mettre en place pour accomplir ce geste parfait. Donc là, vraiment la prestation parfaite de manière collective pour une équipe. Donc, et donc forcément, quand les passes arrivent bien, par exemple dans une équipe de foot, de basket, un sport collectif, tout est bien huilé entre les différents partenaires, je pense qu'il y a vraiment la notion de plaisir. et qui se concrétise après parfois donc par la victoire. Mais il y a donc on a toujours, parce que ce sont des compétiteurs avant tout, donc ils veulent gagner, ils veulent améliorer une performance. Mais il y a aussi cette partie de ce notion de plaisir qu'on entend de plus en plus.
Et en fait, je reviens aussi à ça, mais c'est un peu de la méritocratie, quoi. C'est gagner au mérite, et au mérite et à l'entraînement. Et je trouve que du coup, il y a un côté aussi que j'aime bien, c'est on efface d'une manière ou d'une autre aussi les classes sociales, parce qu'il y a des grands sportifs et des grandes sportives qui viennent de classes sociales très, très différentes. Donc, parfois, juste par le mérite, par les entraînements, par la sueur de leur front, et ça, vraiment, on peut le dire, voilà, ils méritent ce succès, cette gloire, et d'être justement un peu sous les caméras à un moment donné ou un autre.
C'est pour ça que aux Jeux Olympiques, c'est surtout de l'athlétisme qui est là, vraiment la discipline reine, parce qu'elle mélange vraiment, je dirais, tous les pays, et donc les pays les plus développés aux pays les moins avancés. Et là, sur des épreuves de fond, par exemple, on voit que des pays donc comme le Nigeria ou des pays un peu moins avant, qui ont beaucoup moins d'installations sportives que qu'on peut en avoir en Occident, arrivent au sommet et à avoir des beaux champions, quoi. Ce qui est un peu moins vrai, par exemple, sur la natation, qui nécessite d'avoir des bassins.
Des
piscines, ça coûte très très cher. Donc là, vous allez finalement avoir des affrontements qui sont limités aux Européens et aux Américains, quelques Brésiliens, mais ça s'arrête là.
Ben, je sais pas vous, mais moi je suis un peu fatiguée après tout ce sport.
Donc on va souffler.
On va faire
une petite pause. La troisième mi-temps.
La deuxième avant la troisième. Donc une petite pause en musique et je vous propose d'écouter Michel Polnareff avec Goodbye Marilou.
S'allume, je tape sur mon clavier. Tous les mots sont voix qu'on se dit avec les doigts. Et j'envoie dans la nuit un message pour celle qui me répondra ou qu'elle trouve un rendez-vous. Message électrique quand elle m'électronise. Je reçois sur mon écran tout son roman. On s'approche en multi et je la tire en duo. Après, ok, elle me code ma vélo. Goodbye. Son nom sur mon écran. Je me tape Marilou sur mon clavier. Quand elle se déshabille, je lui mets avec les doigts. Message reçu, ok, code Marilou.
Décryptage, une émission de Catobel, Armel Delmel.
Et nous sommes de retour dans Décryptage, votre émission de Catobel sur RCF. J'ai avec moi en studio aujourd'hui Suzanne Descartes et Pierre Granier. Et nous avons donc parlé dans la première partie de l'émission de sport. Maintenant qu'on s'est un peu reposé, c'est parti pour la deuxième mi-temps. Et nous allons partir dans un registre complètement différent, les hashtag, ces mots précédés d'un petit dièse qu'on retrouve partout sur les réseaux sociaux, ils ont une influence sur ce que l'on voit, qu'on le veuille ou non, et on va parler de cette influence. Alors déjà, est-ce que vous, sur les réseaux sociaux, vous avez recours aux hashtag?
Alors ça m'est arrivé, mais pas énormément non plus, je suis pas une grande influenceuse en fait.
Alors moi, vraiment pas du tout. En plus, bon, je suis pas vraiment présent sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas de compte Facebook. J'ai un compte Instagram que je n'alimente jamais, donc je regarde plutôt ce que font les autres. Et puis voilà, ça me suffit. Je regarde un petit peu. Mais jamais j'ai développé une recherche via les hashtags qui sont pas mal utilisés par Instagram, au contraire de Facebook, je crois. Ça dépend des réseaux sociaux finalement.
Effectivement.
Ouais, en fait, plutôt que de moi en poster vraiment et écrire des hashtags, je fais plus de recherches par ce biais, je trouve.
Alors, c'est justement les algorithmes qui favorisent ou pas les hashtags. C'est ça que sur Facebook, ça fonctionne moins bien. Sur Instagram, il y en a sous tous les posts quasiment. Et ces algorithmes changent perpétuellement, y compris en ce qui concerne l'utilisation des hashtags. Est-ce qu'on pourra un jour se fixer sur une façon de les utiliser dans le post, sous le post, dans le commentaire?
Mais c'est ça, moi qui, enfin, vu mon grand âge, je ne suis plus, parce qu'en fait, ça, les habitudes d'utilisation de ces réseaux sociaux, sans compter l'apparition d'autres réseaux sociaux qui ne manqueront pas d'arriver, changent complètement la manière d'utiliser. Donc, je crois qu'on ne pourra jamais dire, bah tiens, on va. C'est l'usage des nouveaux arrivés qui fait que, voilà, ça va être. On va commencer par des hashtags, on va finir par des hashtags, des messages. Mais je crois que c'est incontrôlable à ce niveau.
C'est vrai que ça change beaucoup. J'ai vu que le mot hashtag était arrivé dans le dictionnaire en 2013. Donc, c'est vrai
déjà
que c'est assez récent. Moi, j'ai dû apprendre à mes parents comment utiliser le hashtag et que c'est un mot ou une phrase tout collé sans espace.
Et sans accent.
Et sans accent. Et qu'il ne faut pas confondre avec le arrobase. puisque le arrobase est pour identifier des comptes directement ou des personnes directement. Et en fait, c'est assez utile finalement quand on veut chercher par thématique. Moi, je sais que j'aime beaucoup faire à manger des produits frais, etc. Et des fois, mon frigo n'a aucun sens. J'ai des fruits et légumes partout, mais il y a des trucs plus ou moins urgents. Et ben, je tape le hashtag avec le nom du légume, hashtag butternut. Et ben, vous avez mille et une recettes avec du butternut. C'est vraiment, on peut l'utiliser vraiment comme un outil Moi, je l'utilise vraiment dans ce sens-là. Maintenant, c'est sûr que les influenceurs et les influenceuses sur Instagram l'utilisent différemment pour grossir vraiment leur communauté, avoir énormément de visibilité, plus d'exposition. Ils appellent ça le reach en anglais, le fait d'atteindre oui, plus en plus de personnes, et du coup ils ont plus de vues, plus de j'aime, et donc aussi plus de rémunération. Donc c'est vraiment un enjeu important. Au-delà de juste identifier des thématiques, c'est aussi très important. Il faut être stratégique aussi dans le choix des mots. J'ai remarqué qu'en fait on ne peut pas mettre tout et n'importe quoi. Par exemple, si on met un mot qui n'a absolument rien à voir avec la thématique, on peut se faire sanctionner par les réseaux, parce que c'est juste une utilisation, une mauvaise utilisation, quoi. On peut pas mettre hashtag fitness quand c'est de la couture, par exemple.
Ce qui n'aurait aucun sens à faire.
Mais voilà. Enfin.
On ne doit pas en utiliser trop non plus pour être efficace, paraît-il. Donc,
Bah, ça dépend des réseaux. Sur Threads, donc le nouveau réseau de Meta, on ne peut en utiliser qu'un. Sur Instagram, il me semble que c'est 30
ouais,
par post.
C'est maximum 30, oui.
Dans le post, puis on peut en rajouter en commentaire.
Ouais.
Ça dépend.
Quel intérêt d'accumuler comme ça tous ces hashtags? Moi, je sais pas.
Ben, c'est vraiment pour être vu. En fait, même il y a des mots qui se ressemblent. En fait, la plupart du temps, ils sont utilisés en anglais quand même. Mais des fois, en fait, on voit le double mot une fois, ouais, le mot en anglais, une fois le mot en français. Et c'est pour avoir justement une communauté internationale, quoi. Pour vraiment avoir une vue partout dans le monde et donc vraiment augmenter tout ça.
Donc c'est intéressant si finalement le message passe à travers surtout une image, une vidéo. Si c'est surtout du texte, par contre, je pense que...
Oui, ça permet aussi de décrire l'image, de décrire la vidéo et certains aspects. J'ai vu aussi qu'il y avait des hashtags qui étaient interdits ou qui étaient bannis pour cause de mauvaise utilisation ou alors utilisation un peu
abusive
comme hashtag nudity ou hashtag young model. ils sont interdits par Instagram, donc c'était assez intéressant de voir ça. Et aussi, j'ai vu qu'il y avait des bases de recherche qui te fournissent en fait automatiquement les hashtags que tu as besoin. Tu mets par exemple un pays, Irlande, et ben cette base de recherche va te donner 20 hashtags possibles et stratégiques sur l'Irlande.
Pas mal. S'il y a des influenceurs, des personnes qui veulent devenir influenceurs qui nous écoutent.
Effectivement, c'est utile pour les influenceurs.
Alors, il y a des hashtags. Les hashtags divisent un peu les plateformes en différents univers et permettent de voir ce qu'on a envie de voir, que ce soit des recommandations de recettes pour le butternut, de livres, des balades, des conseils bricolage, des photos de nature, de voitures, que sais-je. Une fois qu'on est dans un univers, on a un peu du mal à en sortir. C'est un peu comme les bulles médiatiques dans lesquelles les réseaux sociaux nous enferment et ça contribue en fait.
C'est vrai, il y a ce fil aussi d'actualité, ce trend. En fait, à partir du moment où on a fait quelques recherches, par exemple, mon butternut, je peux le voir à beaucoup de moments et la protection de mes données n'est pas vraiment optimale puisque après, tout est orienté en fonction de ce que j'aime, forcément.
Oui, ça c'est effectivement quelque chose qui est un peu agaçant, surtout quand on est journaliste, qu'on aime bien avoir un peu une culture générale. On va se retrouver avec sans cesse les mêmes sujets, déclinés à toutes les sauces. C'est un peu le principe de l'algorithme où tout d'un coup, ah tiens, vous avez cliqué sur ça, ça veut dire que ça vous intéresse. Oui, ça m'intéresse sur le moment M, mais ça ne veut pas dire que je suis devenu tout de suite un inconditionnel et un forçat de tel thème. Mais là, c'est un vrai souci en termes de diversité culturelle et d'enrichissement culturel pour soi.
Et d'un autre côté, ça peut aussi apporter des choses un peu plus approfondies d'une manière ou d'une autre. Alors, il faut essayer toujours de contrebalancer, mais par exemple, le butternut, moi je faisais que de la soupe de butternut. Je suis désolée avec cet exemple, hein. Vraiment,
c'est un exemple comme un autre.
Je pousse l'exemple au maximum, mais maintenant, je fais des pestos de butternut, on peut faire des gnocchis de butternut, je pousse le truc au maximum, mais voilà, c'est juste pour montrer que ça permet aussi de cette chance que les réseaux sociaux nous donnent, c'est d'avoir une diversité, une multiplicité d'idées qui est incroyable. Et dans les arts manuels aussi, mon Dieu, il y a tellement de choses. La couture, la broderie, c'est tellement tendance aussi que tout le monde en va de sa petite fantaisie et donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses.
Mais tout a l'air facile surtout, c'est ce qui me désole. Surtout en matière de butternut, de manière générale, en matière de jardinage, vous voyez, donc c'est un concentré parce qu'il faut que ça aille très, très vite. Hein, donc on voit le gars qui vous explique les méthodes et donc ça doit marcher à 100%. Et puis quand vous essayez, de suivre la méthode, vous avez soit les limaces qui sont passées, enfin, de toute façon, il y a toujours un problème
avec
la nature qui fait que voilà, vous êtes un petit peu déçu. Et voilà. Mais sinon, c'est vrai, c'est un vivier d'idées extraordinaires. Hein. Mais que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, de ce côté-là, les réseaux sociaux en général.
Alors, il y a aussi des dérives avec les hashtags. Et quand on préparait cette émission, vous avez parlé à Suzanne de Bookstagram ou de BookTok, donc la partie littéraire des réseaux sociaux ici sur Instagram et TikTok. Et donc là, il y a des hashtags qui donc nous emmènent dans cet univers où on recommande des livres, on parle livres. Et donc là-dedans aussi, il y a des dérives.
Complètement. Bon, déjà, avant les dérives, ça a quand même complètement changé le monde littéraire et notamment le monde de la communication et des critiques littéraires parce que en fait, tout le monde peut devenir critique littéraire tout d'un coup. Les bons comme les moins bons auteurs se retrouvent propulsés sur la toile. Donc, ça change vraiment complètement tout ça. Et donc, les maisons d'édition aussi se mettent à cette communication. Et en fait, il faut savoir aussi qu'il y a un marché aussi derrière tout ça et qu'on achète souvent des Instagrammeurs et donc on achète aussi beaucoup des publications et donc c'est pas toujours neutre et toujours une recommandation, honnête.
Authentique. Ouais.
Voilà, maintenant oui, il y a des dérives et j'ai appris donc ce nouveau genre littéraire qui est la dark romance par ces hashtags justement où c'est vraiment donc une visée aussi. Il y a une visée d'un public précis, donc c'est souvent des jeunes filles et des Instagrammeuses qui vont recommander certains livres. Et donc ce genre de littéraire qui est la dark romance, c'est un amour qui est très stéréotypé et qui va être très problématique car très sexiste, mais surtout avec énormément de violence, de manipulation, de domination. et surtout des relations sexuelles et des relations non consenties. Donc, en fait, les jeunes filles se retrouvent face à ces livres, achètent ces livres et, en fait, ne sont absolument pas accompagnées dans cette lecture et qui peut être parfois très, très, très choquante.
Oui, on a comment dire, il y a un souci par rapport à ça, c'est qu'il n'y a pas de mise en garde après sur les couvertures, sur le contenu d'un livre, finalement. Donc, on a ça pour le cinéma. On a quand même des codes pour dire ben non, c'est plutôt conseillé à un jeune public à partir de 12 ans, à partir de 16 ans, interdit au moins de 18 ans. Ça n'existe pas en matière littéraire ou peut-être à la marge. Et on s'aperçoit, et pour parler de la dark romance, alors j'ai jamais lu de genre, hein, de livre qui appartient à ce phénomène littéraire. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire pourquoi c'est plutôt des jeunes filles, hein, j'ai l'impression. Pourquoi elles sont attirées par ce genre de livre? Est-ce que c'est parce qu'elles se retrouvent là-dedans par rapport à leur propre relation? Ou est-ce que c'est quelque chose qui, comment dire, frôle un peu le sulfureux, l'interdit, qu'il y a toujours un attrait, surtout chez les jeunes, pour justement ce qu'on ne va pas trouver ailleurs? Alors, comme ça a démarré, en tout cas, ça a été vraiment promu sur les réseaux sociaux, puisque c'est parti de manière très très marginale, où finalement j'ai l'impression que c'était pas accepté par les maisons d'édition. Donc c'était d'abord auto-édité, et puis le phénomène en auto-édition a pris de l'ampleur, et là les maisons d'édition qui sont quand même là pour faire de l'argent avec les livres, hein, c'est quand même le nerf de la guerre, elles se sont dit oulala, mais on est sans doute en train de passer à côté de quelque chose d'important. Donc du coup, elles se sont précipitées sur le genre. Donc, elles avaient sans doute peut-être reçu, je ne sais pas, hein, des manuscrits qu'elles ont, dans un premier temps, mis de côté parce qu'aucun intérêt littéraire, ou peut-être parce que la moralité était franchement douteuse. Et puis maintenant, elles reviennent finalement, on peut dire que certaines reviennent peut-être sur leur position parce que ça se vend. Donc ça, c'est là, on peut se dire qui est finalement le plus coupable. Est-ce que c'est les réseaux sociaux, parce que ça a été, donc, voilà, a été mis en avant par certains, alors, influenceurs en matière littéraire, entre guillemets. Je ne sais pas s'il y a des qualités vraiment littéraires derrière, peut-être à discuter aussi. Ou est-ce que ce sont les maisons d'édition qui, voilà, dans un temps, ont plutôt dit non, et puis après on dit oui parce que voilà, ça se vendait trop bien.
Je vois aussi que c'est aussi une certaine manière d'apporter un vent un peu plus frais dans les librairies, et c'est quand même des jeunes personnes qui poussent les portes des librairies, qui sont absolument pas forcément communes. D'ailleurs, c'est pas un public qui a l'habitude aussi de rentrer dans ce genre de magasin. Et donc du coup, ça peut être aussi intéressant. Et je vois même que il y a certains rayons qui sont dédiés génération TikTok, ou recommandés par
TikTok me l'a fait acheter.
Exactement. Donc on a vu aussi toute la folie autour du manga qui a aussi été assez impressionnante. Donc voilà, maintenant je pense que c'est peut-être un peu passager et éphémère comme mode, et que ça va peut-être très vite s'essouffler. Voilà.
En tout cas, c'est l'occasion de souligner le rôle crucial des libraires, puisque là, on travaille, enfin, je dirais, avec les influenceurs, on est sur vraiment le monde digital, mais finalement, c'est un objet, je veux dire, c'est quelque chose de très matériel qu'on va finalement se procurer. Un livre, et le livre, alors, évidemment, on peut toujours se le faire livrer à domicile, mais il est dans une librairie le plus souvent, et là, c'est bien quand même d'aller discuter avec les libraires et les professionnels qui, s'ils font bien leur métier, pourraient dire, attention, vous mettre en garde, pas de problème, liberté de lire ce qu'on veut, liberté d'expression, mais voilà, faut savoir de quoi il en retourne exactement, et vous pourriez être peut-être choqué par certains passages. Alors, si c'est pas indiqué évidemment en quatrième de couverture, parce que du coup ça va aller à l'encontre d'une possibilité de vente, au moins que le libraire ait ces informations-là, et qu'il se contente pas de dire ça fait un carton via TikTok, alors forcément ça a un intérêt, donc il y a peut-être apporté un bémol, et après on achète en sachant exactement de quoi il en retourne.
Alors, je vais vous arrêter, même si vous avez l'air passionné par ce sujet de la dark romance et de tout ce que ça implique, parce que on n'a plus beaucoup de temps devant nous déjà. On n'a jamais assez de temps dans cette émission, je trouve. Et donc, on va faire une nouvelle pause en musique avec du belge à l'envers, à l'endroit de Delta.
Se dessine entre le va-et-vient des bus de nuit. Y a des sirènes sur le parvis.
vie. À l'envers, à l'endroit. Dans quel sens te réveilleras-tu demain? À l'éther, à l'eau froide. Dans le coma du commun. Alors disons-nous au revoir. Juste avant le verre de trop. Avant d'errer sur les trottoirs. Et de se perdre jusqu'à l'eau. Dans l'urgence des derniers métros. Avant les retards, la terre ne marche. Avant qu'on se noie dans le bistrot. Avant nos drôles de démarches. À l'envers, à l'endroit. Place de Brooker, j'ai l'air de quoi. Un vieux boulet me traînant par la main. Pour une soirée que j'aurais oublié demain. Non, non, ça ne me dit rien. Alors disons-nous au revoir. Juste avant le verre de trop. Avant d'errer sur les trottoirs. Et de se perdre jusqu'à. À l'envers, à l'endroit.
Décryptage, une émission de Cato Bell, Armelle Delmel.
Et nous revoilà pour la dernière partie, la troisième mi-temps, enfin Suzanne, nous y sommes, de ce décryptage. Et donc j'ai avec moi en studio Suzanne Bécard et Pierre Granier. Et il est déjà temps de passer à vos zooms. Alors, si je ne me... si je me rappelle bien, Pierre, vous allez nous parler d'un accord discutable ou
oui, c'est ça,
douteux.
Discutable, très discutable.
Et Suzanne, vous allez nous parler de Jérusalem. Alors, qui veut commencer?
Pas ce jeune.
Alors, peut-être que vous savez malheureusement l'actualité malheureuse au Moyen-Orient. Et beaucoup d'entre nous sont souvent perdus dans tous ces éléments, ces dates, ces histoires. Donc moi, j'ai un remède pour vous. C'est une bande dessinée qui est parue aux éditions Les Arènes fin 2022. Et son titre est très simple, Histoire de Jérusalem. C'est une adaptation en fait d'un essai de l'historien Vincent Lemire, qui ici a travaillé avec du coup un dessinateur, Christophe Gaultier, qui a adapté en BD, et ensuite la coloriste Marie Galopin. Donc en fait, c'est un vieil olivier qui trône sur le mont des Oliviers et qui raconte en fait les transformations qu'a connues cette ville. Et tenez-vous bien, c'est en 10 chapitres. Donc en fait, on part de moins 2000 avant Jésus-Christ et on arrive à la fin du livre en 2011. Alors du coup, peut-être qu'il y aura une suite un jour, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est déjà 4000 ans d'histoire en 250 pages. Donc c'est quand même un coup de maître assez impressionnant.
C'est une grosse BD.
Ouais, c'est une grosse BD, mais très belle et très riche et tellement d'éléments qu'il y a une petite chronologie quand même pour nous aider à la fin avec pas mal de ressources. Donc voilà, si vous êtes passionné d'histoire et que vous avez envie d'en savoir un peu plus sur cette ville mystérieuse aux mille et une facettes, eh ben n'attendez plus, il est à 27 € chez votre libraire. Hashtag
BookTok. Hashtag Jérusalem. Hashtag Butternut.
Jérusalem Butternut. Voilà,
tout va bien. Donc Pierre, cet accord, dites-nous.
Oui, alors c'est même plus qu'un accord, c'est un traité. Hein. Je pense que vous en avez entendu parler, mais le Parlement du Royaume-Uni est arrivé à ses fins et donc il a adopté une loi après 2 ans de débats politiques qui permet de renvoyer les demandeurs d'asile arrivés illégalement vers le Rwanda. Ça veut dire que, voilà. Ça veut dire que le Rwanda donc, est tout à fait d'accord, moyennant alors une somme qu'on ne connaît pas, mais pour accepter hein, des illégaux, comme on dit abusivement. Alors, on parle donc vraiment de traité, hein, et derrière, en fait, on a l'impression qu'il s'agit d'une marchandise, hein, de coopération, mais non, il s'agit tout simplement voilà, de renvoyer, pas dans leur pays natal, alors peut-être que c'est une bonne chose pour certains, mais en tout cas, dans une destination totalement improbable, des gens qui cherchaient à gagner en tout cas le Royaume-Uni, parce qu'ils y avaient sûrement de la famille déjà, et qui avaient l'espoir d'y refaire leur vie. Alors, c'est pas sûr. Alors, en quoi il est contestable? Ben voilà, sur le fond, hein. L'aspect dissuasif, on n'est pas certain que ça dissuade les migrants de continuer à tenter leur chance de rallier les côtes anglaises au départ, souvent, le plus souvent, du Pas-de-Calais. Mais, parce que, en fait, quand on regarde de près, l'accord, il porte sur 1 000 000 de personnes, voire au maximum 5 000 personnes en 5 ans. Quand vous rapportez ça aux chiffres de l'immigration, c'est très peu, puisque le système donc de demande d'asile est complètement saturé. Il y a 130 000 personnes en Angleterre qui attendent. Et en 2023, en fait, on a comptabilisé 675 000 personnes qui ont migré vers le Royaume-Uni. Donc c'est vraiment une goutte d'eau. Enfin, je veux dire, l'accord, enfin, ce traité conclu avec le Rwanda porte sur vraiment une goutte d'eau. Donc il y a un effet d'annonce. Sans doute, le Rwanda y voit un intérêt diplomatique, puisque ça a été c'était l'objet d'ailleurs de tout le travail du texte, puisqu'il avait été retoqué dans un premier temps, non seulement par la Cour des droits de l'homme, européenne des droits de l'homme, mais aussi par la Cour suprême au Royaume-Uni. Donc ils sont arrivés techniquement à proposer un texte correct qui disait, en fait, mais voilà, qui consistait à dire le Rwanda est un pays sûr. Alors là aussi, ça peut être contestable pour beaucoup de personnes. Donc on renvoie des gens dans un pays parce qu'on dit qu'il est sûr. Quand on voit ce qui se passe à la frontière avec le Congo, quand on connaît l'histoire du Rwanda, je sais pas si on peut appeler le Rwanda un pays très sûr, mais en tout cas c'était l'argument numéro un sur lequel les députés ont travaillé d'arrache-pied pour faire passer ce texte. Donc voilà, mais de nombreuses associations évidemment le contestent, et donc on expliquait qu'elles seraient prêtes à contester au cas par cas, chacun des cas donc qui se présenterait, qui serait concerné par un envoi au Rwanda, et pour prouver que le Rwanda n'est pas un pays sûr. Voilà.
Merci Pierre pour ce point sur cet accord, effectivement, dont je pense tout le monde a entendu parler cette semaine. Et il vous reste à faire la présentation du dimanche.
Bien,
encore, je vous laisse
dimanche,
le micro.
Oui. Et à la une donc, de ce nouveau numéro dimanche, un bateau nommé Pape François. Comme vous vous en doutez, rien à voir avec la croisière s'amuse, car il s'agit ici d'un bateau hôpital qui sillonne l'Amazonie brésilienne. Alors, l'origine de ce bateau remonte à 2013. Le pape est à Rio de Janeiro dans le cadre des JMJ. Et il visite un hôpital tenu par une fraternité franciscaine. Il se renseigne pour savoir si cette fraternité est aussi présente en Amazonie. Et comme ce n'est pas le cas, eh bien, le pape invite les soignants à s'y rendre. Alors, deux hôpitaux, par contre, seront ainsi créés dans la foulée, mais aussi ce navire qui permet d'aller à la rencontre de la population qui vit sur les rives du fleuve et sont éloignés, très éloignés des hôpitaux, du premier hôpital, en fait, dans la région. Appareillé pour la première fois à la mi-juillet 2019, le bateau hôpital Pape François embarque à raison de 2 à 3 fois par mois des médecins généralistes, des chirurgiens, des anesthésistes, des pédiatres, des radiologues, des ophtalmologistes et des dentistes. Ils sont tous bénévoles dans ce cadre-là. Il y a aussi des religieux et des religieuses qui proposent un accueil spirituel. Apolline Guillereau-Malik a passé 4 jours sur ce bateau et son reportage est à lire en pages 8 et 9. On change maintenant de continent pour rejoindre Madagascar. Dans la cour de la cathédrale d'Antananarivo, la capitale malgache, un mausolée en pierre attire les foules. C'est un des lieux de recueillement les plus fréquentés du pays où repose la bienheureuse Victoire Rasoa Manarivo. Cette femme est une icône de la fidélité, aussi bien à l'église catholique qu'à son mariage. Et elle est d'ailleurs souvent invoquée par les femmes pour des problèmes liés à leur vie de couple. Elle a été béatifiée par Jean-Paul II en 1989 et elle devrait tôt ou tard être canonisée. C'est en tout cas ce qu'espère la population, impatiente de pouvoir célébrer la première canonisation de l'histoire de Madagascar. Mais 35 ans plus tard, on attend toujours l'authentification d'un deuxième miracle par le Vatican. C'est un article de Max Xavier Carmel à lire en page 4. Allez, on revient en Belgique cette fois, du côté de Mons, pour aller à la rencontre d'une ortithérapeute. Est-ce que vous attendez de parler d'une ortithérapeute?
Avec de l'ortie,
ouais, j'allais dire une thérapie avec les orties.
mais, après un parcours professionnel qu'elle définit comme éclectique, Anne-Françoise Pearson donc a créé en 2022 l'ASBL, le jardin qui prend soin. De manière tout à fait innée, chacun peut comprendre qu'un jardin fait du bien, nous dit Anne-Françoise, qui vient ainsi en aide à des personnes fragilisées par un burn-out ou atteintes de troubles psychiatriques. Elles seront aussi dans des prisons ou des maisons de repos, enfin partout où les cœurs, les corps et les âmes ont besoin d'apaisement ou de guérison. Cette rencontre est signée Agnès Michel, est à lire en page 7. Pour terminer, alors nous allons ici remettre une nouvelle fois les pendules à l'heure quant à l'historicité de Jésus, avec cette fois le théologien Mathieu Lavagna, vous connaissez peut-être Suzanne, et dans son livre intitulé « Non, le Christ n'est pas un mythe », il répond de façon documentée et méthodique au philosophe Michel Onfray.
Ah ben oui, Michel Onfray, j'ai vu.
Parmi les nombreux contre-arguments à la thèse mythiste, Mathieu Lavagna rappelle tout d'abord l'abondance de sources qui attestent de l'existence de Jésus. Nous en avons au total 42, dont 9 non-chrétiennes, précise-t-il. Et en comparaison pour Jules César, nous avons seulement 5 sources rapportant ses opérations militaires et pourtant, personne ne remet en cause son existence. J'imagine qu'autour de cette table, c'est le cas. Donc voilà, ces propos ont été recueillis par Raphaël Esbinden et sont à lire en page 10. Bon week-end de lecture avec Dimanche.
Merci Pierre et merci à vous aussi Suzanne d'être venue aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un nouveau décryptage.
Avec plaisir.
Merci Armel, merci à toutes et tous.
Puis merci aussi à vous chers auditeurs de nous avoir suivis une fois de plus. L'émission est à retrouver en podcast sur catobel.be et rcf.fr et on vous remettra les références du livre présenté par Suzanne dans son Zoom avec le podcast également. Comme ça, si vous avez envie de lire, vous pourrez le faire. À bientôt.